Chapitre 3. Dans le salon assombri que Ginevra et sa sœur, le lendemain, avaient orné de roses, Don Silvio fit sa première visite de fiancé. Aimable et courtois, il plut à ses futurs beaux-parents et à Tchèque. Celle-ci dit à Ginevra, un peu plus tard, tandis que les campêtres y se préparaient pour accompagner le jeune homme chez son père, « Il est tout à fait bien. Tu seras heureuse, ma Ginevra. » L'automobile de Don Silvio emmena les campestres, en peu de temps, à la grille de la Villa Orchiella. Celle-ci s'élevait aux portes de la ville. Elle datait du XVIIIe siècle et avait grand air, avec ses hautes portes-fenêtres aux vitres étincelantes, ouvrant sur un degré de marbre rose, son étage unique décoré de guirlandes sculptées, et l'attique élégante, interrompue de distance à distance par des statues dues au ciseau d'un jeune sculpteur florentin, protégé des Orchiella, mort à 23 ans, au début d'une carrière qui s'annonçait comme celle d'un admirable artiste. En descendant de voiture, Ginevra jeta un long regard sur la façade d'un gris doux moucheté, sur laquelle s'étendait la clarté brûlante de l'après-midi. Ce serait là sa demeure, son foyer. Connaîtrait-elle un peu de bonheur entre ces murs qui avaient vu commencer et finir tant d'existences, qui avaient surpris peut-être de pénibles, de douloureux secrets? À cette pensée, la villa d'aspect aristocratique et discrètement accueillant lui parut tout à coup mystérieuse, presque effrayante. Son regard, involontairement, chercha celui de Silvio. Il ne le rencontra pas. Déjà, le jeune homme montait le degré de marbre en précédant ses hôtes vers le vestibule où se tenaient deux valets en livrée. L'un d'eux informa le marquis que son père attendait les visiteurs sur la terrasse. Silvio, se tournant vers Ginevra, dit à mi-voix, tout en continuant d'avancer, « Ce pauvre père a une grande hâte de vous connaître. Donna Francesca lui a dit tant de bien de vous qu'il a peur d'être déçu. Mais moi, je sais bien qu'il ne le sera pas. » Un sourire timide lui répondit. Ginevra pensa, « Comme c'est bon à lui de me dire cela !» Un peu de joie se glissant en son cœur inquiet. L'effort, la froideur, perceptible pour un observateur dans l'attention courtoise qui dictait les paroles de Silvio, avait échappé à la jeune fille. Sur l'autre façade de la villa s'étendait une terrasse de marbre où l'ombre se répandait à cette heure de la journée. Les roses, la parure célèbre des jardins d'Orchiella, arrivées jusqu'à elle, lui envoyaient leurs arômes innombrables. De ce côté, elle couvrait aussi le mur de la villa. Et si loin que la vue s'étendit, on les voyait s'enrouler, comme une tunique vermeille, blanche ou couleur de soufre, autour des troncs d'arbres, s'élever sur le socle de marbre des statues, s'étendre en long cordon d'où tombaient des rameaux fleuris que la brise balançait. Sur la terrasse, Don Paolo attendait, assis dans son fauteuil d'infirme. Depuis 4 ans, la paralysie l'immobilisait. Dans un visage fin et maigre comme celui de Silvio, rêvaient des yeux tristes qui s'animèrent à la vue des arrivants. Après avoir effleuré le chevalier et sa femme, ils s'arrêtèrent longtemps sur Ginevra. La jeune fille n'en fut pas gênée. Ce regard était bienveillant, déjà paternel. L'accueil du marquis acheva de la rassurer. Don Paolo était discrètement courtois, comme son fils, avec plus d'affabilité naturelle. Il semblait, en outre, vraiment heureux de connaître sa future bru, et sans doute de la trouver aussi sympathique, aussi conforme à son désir secret, pour la consolation de son fils. Autour de lui, les visiteurs se groupèrent. Le chevalier parlait peu, selon sa coutume. Donna Maria, par petites phrases sèches, disait l'attachement de tous pour la comtesse Riesini, si dévouée à ses amis. Ginevra répondait aux questions de Don Paolo, de cette voix pleine et musicale qu'il plaisait tant à l'oreille. Silvio, assis près d'elle, jetait son mot dans l'entretien. Il était calme en apparence, il contenait sa souffrance, l'atroce souffrance de ses souvenirs. 4 ans auparavant, dans un parc de Normandie, il se passait une scène presque semblable. Un père, une mère, regardaient avec complaisance les fiancés assis l'un près de l'autre. Deux yeux bleus, tendres et radieux, se levaient sans cesse vers Silvio et souriaient à l'adoration de son regard. Le soleil frôlait des cheveux blonds, si blonds et si légers, qu'ils semblaient de merveilleux fils d'or pâle. et Silvio avait connu la plénitude du bonheur terrestre en ses premières heures de fiançailles. « Tu devrais montrer les jardins à Donna Ginevra, mon enfant !» Il tressaillit légèrement. Sa pensée l'avait emporté loin de la terrasse parfumée, loin de ses étrangers, de cette jeune fille sérieuse, si timide, qui était maintenant sa fiancée. Mais très volontiers, si cette petite promenade peut plaire à Donna Ginevra. La jeune fille, d'un coup d'œil, consulta sa belle-mère. Donna Maria dit aussitôt « Va, va, Ginevra !» Les fiancés, côte à côte, descendirent lentement les degrés de marbre, s'engagèrent dans une allée ensoleillée, le long d'une pelouse, sur laquelle les arbres voisins jetaient de grandes taches d'ombre. Silvio parlait des roses, de leur culture. Au passage, il en cueillait pour Ginevra en lui demandant celle qu'elle préférait. Il disait « Elles vont finir maintenant, mais vous verrez, en juin, quelle floraison magnifique nous aurons ici. » Et il pensait en même temps « C'est à ce moment-là que je suis venu avec Hélène. Là, sous ce portique fleuri, je l'ai couronnée de roses et elle riait. » L'eau jaillissait des fontaines de marbre à l'ombre des bosquets de myrtes et de lauriers. Elle frissonnait, glauque et lumineuse, dans les bassins sous la clarté chaude d'un soleil ardent. La blancheur mate d'une statue surgissait dans la pénombre verte d'une allée tournante près d'un massif de géraniums écarlates. Ginevra, émerveillée, admirait silencieusement. Elle se disait « Vraiment, est-ce possible qu'un jour, bientôt, je sois ici chez moi ?» En contrebas, entre des pins sveltes, dormait un petit lac couvert de nénuphars roses. La fantaisie d'un marquis Orcella l'avait fait creuser, jadis, et entouré d'un parapet de pierre, aujourd'hui d'un gris verdâtre, parsemé de crevasses, envahi par les lichens. Ginevra s'arrêta un instant en se penchant vers l'eau teintée de vert sombre. Sa taille souple se ployait avec élégance, son cou, fin et ombré, avait des flexions pleines de grâce. Silvio, qui la regardait machinalement, remarqua cela et aussi les lignes charmantes du profil, la beauté de ses longs cils bruns et soyeux qui tremblaient au bord des paupières. Mais aucune joie ne tressaillit en lui. L'émotion qui l'étreignait n'était faite que de sa souffrance et d'une irritation secrète. Il pensait « Pourquoi celle-ci est-elle encore vivante et si jolie, tandis que mon Hélène ?» Il lui en voulait de cette beauté qu'il découvrait tout à coup aujourd'hui. Jusqu'ici, il l'avait trouvée insignifiante, plutôt bien que mal, voilà tout. Le souvenir de la beauté blonde d'Hélène, de sa grâce rieuse, de son élégance raffinée, l'avait poursuivi en présence de la jeune fille, timide et distinguée, très sérieuse, très réservée, qui s'habillait avec tant de simplicité, sans nul souci de coquetterie, et semblait ignorer complètement l'art de faire valoir cette fort belle chevelure brune qu'elle coiffait de façon disgracieuse. Il avait pensé alors, avec une sorte de satisfaction douloureuse, « Jamais elle ne sera comme Hélène, si délicieusement élégante. » Mais maintenant, il ne songeait plus à faire cette réflexion. Celle qui était là avait une beauté fort différente de celle d'Hélène, mais aucunement inférieure. Elle se détourna et rencontra un regard assombri qui l'étonna, la fit tressaillir un peu d'inquiétude fugitive. Mais Silvio, se ressaisissant, parla de nouveau et même avec un peu plus d'animation que tout à l'heure. Ne lui fallait-il pas s'étourdir pour avoir la force d'aller jusqu'au bout, de jouer son rôle près de cette jeune fille qui lui était si profondément indifférente? Ils revinrent du côté de la villa. Maintenant, l'ardeur du soleil commençait de s'éteindre. Sa lumière adoucie ne brûlait plus les fleurs languissantes ni l'eau dormante des bassins. Le parfum des roses s'exhalait dans l'air tiède en se mêlant à la senteur balsamique des pins. Ginevra pensa « Que cette heure est belle !» Mais elle n'osa le dire tout haut. Comme ils approchaient de la terrasse, un chien, loulou blanc superbe, s'élança d'une allée voisine en aboyant joyeusement et vint sauter sur Silvio. Celui-ci laissa échapper un geste d'irritation. Il dit en français, d'un ton impatient, en repoussant l'animal « À bas, Toby, à bas, et va-t'en » Ginevra s'écria « Oh, laissez-le, j'aime tant les chiens !» Elle étendit la main, caressa la tête qui se tendait vers elle. Toby la regardait avec des yeux attentifs et semblait demander « Qui es-tu ? »
« Comme il est beau et quel bon regard ! Vous l'appelez Toby et c'est votre chien ?»
Silvio répondit brièvement « Oui, il est à moi. » Ses traits se tendaient, sa bouche trembla un peu sous la moustache brune. Il jeta un regard sombre sur le chien qui léchait doucement le gant de Ginevra et se remit en marche vers la terrasse en silence. Ginevra sut trouver des mots justes et charmants pour exprimer à son futur beau-père l'admiration que lui inspiraient les jardins d'où elle venait. Don Paolo la considérait avec une visible sympathie. Il la fit asseoir près de lui pendant la collation servie peu après et s'entretint plus particulièrement avec elle tandis que son fils réussissait à rendre le chevalier presque loquace en lui parlant de ses chères études. L'automobile ramena les Campestri à leur logis. Silvio les y accompagna. Au retour, il alla rejoindre son père sur la terrasse. Don Paolo dit vivement « Ton choix est parfait, mon enfant. Cette jeune fille me plaît beaucoup. »«
Eh bien, tant mieux, mon cher père. »«
Et à toi, Silvio, à toi. » Silvio dit froidement « Elle est ce que je désirais, distinguée, suffisamment intelligente et bonne, je le crois. »«
Jolie aussi, très jolie, vraiment. »
« C'est incontestable. Enfin, je suis heureux qu'elle vous soit sympathique, mon père. Je te le répète, elle me plaît infiniment. Je crois qu'elle sera pour toi une compagne charmante, Silvio. » Le jeune homme ne releva pas cette parole. Son regard s'attachait sur le chien, couché près du fauteuil de son père. S'adressant à un domestique qui venait enlever les restes de la collation, il dit d'un ton mécontent «
Je vous avais bien recommandé, Benuccio, de tenir Toby enfermé cet après-midi. Est-ce ainsi que vous exécutez mes ordres ?»«
Mario a ouvert la porte par mégarde, Excellence, et le chien s'est échappé. » Silvio eut un mouvement d'épaule en murmurant
« Maladroit !»
Sur la table placée près de Don Paolo, il prit un cigare, l'alluma et descendit les degrés de la terrasse. Son père le regarda s'éloigner en songeant avec une tristesse irritée
« Il va sur sa tombe, même aujourd'hui. Ah, qu'il sera difficile de la lui faire oublier !»
Au détour d'une allée, Silvio jeta son cigare et prit un pas plus rapide. Il s'aperçut tout à coup que Toby était près de lui. Brusquement, il s'arrêta et chassa le chien d'un geste indigné.
« Va-t'en, tu l'as déjà oublié, toi qu'elle aimait tant. Tu es prêt à recevoir les caresses de l'autre. Va-t'en !»
Il s'enfonça dans une allée de pins. Des clartés glissaient sur les troncs sveltes, sur les pelouses où retombaient les lourdes branches des cèdres. Elles envahissaient l'espace déboisé, planté des roses les plus rares, où s'élevait la petite chapelle de marbre sous laquelle reposaient les restes de la première femme du jeune marquis Orcella. Silvio ouvrit la porte délicatement forgée et entra d'un pas alourdi. Un cénotaphe de marbre blanc se dressait à l'intérieur. Des fleurs l'entouraient, s'échappant d'amphores élégantes. Au fond, surmontant une console de marbre recouverte de roses, un Christ d'ivoire étendait ses bras. La lumière du couchant, qui pénétrait dans la chapelle par la porte ouverte, vint éclairer son visage douloureux et se joua sur les vitres claires de la fenêtre trilobée au-dessus de lui. Silvio s'agenouilla, il appuya son front, ses bras, contre le marbre du tombeau. Ainsi, il semblait effondré sur ce sépulcre. La clarté chaude venue du dehors enveloppait sa tête courbée, ses épaules frémissantes. Il murmura avec une sorte de violence
« Ne crains rien, mon amour, elle ne prendra jamais ta place dans mon cœur. Tu seras toujours ma seule bien-aimée, comme je te l'ai promis. »
Ses lèvres se posèrent sur le marbre et, à ce contact glacé, il frissonna un peu dans la tiédeur parfumée de la chapelle où se mouraient tant de fleurs.